Je viens de prendre connaissance dimanche par les informations du JT de 13h d'Antenne 2 de l'agression inqualifiable des forces de police et des intermittents du spectacle qui manifestaient pacifiquement. Les coupables doivent être traduits devant les tribunaux et pour y être jugés. Au lieu de négocier et satisfaire les justes revendications des artistes et techniciens, le gouvernement Raffarin à la solde du BNF envoie les CRS pour les casser et les faire rentrer dans le rang. Cela a un goût du métro Charonne de triste mémoire. Un pouvoir qui s'attaque aux hommes et aux femmes qui produisent l'identité culturelle de la France et son rayonnement dans le monde est un pouvoir décadent et réactionnaire condamné par l'histoire. La culture, le savoir, la pensée, selon le FMI et l'Organisation mondiale du commerce, sont des marchandises. Ils doivent mettre genoux à terre et se plier aux exigences idéologiques du système capitaliste et à la rentabilité des capitaux investis. Le capitalisme combat la culture parce que c'est la force humaine qui découvre dans le monde les exigences d'un changement et lui en fait prendre conscience. Salut Daniel.
Alors voilà ce qui s'est passé à Cannes. Ce week-end, hein, tel que c'est raconté sur le répondeur de la Bastille, si vous m'excusez, je viens de courir dans les couloirs pour arriver jusque au studio, et on le voit, eh bien, la lutte contre le terrorisme, c'est pas seulement à Rafah, c'est pas seulement à Gaza, c'est pas seulement à Bagdad, les terroristes sont partout. À Cannes, les djihadistes du spectacle, les intermittents armés, les commandos de journalistes Moudjahidin et les caméramens du peuple s'apprêtaient à prendre d'assaut le palais d'hiver du festival et ils se sont heurtés, alors, au service d'ordre, disons qu'ils ont plutôt été heurtés par le service d'ordre. Et évidemment, pour nous qui sommes des journalistes tout à fait objectifs, mesurés et bien informés, c'est une bavure, c'est une bavure, et on va vous le prouver aujourd'hui en revenant à Saint-Astier, quelque part en Dordogne. Ça vous dit rien? Eh ben, vous allez voir que ici passe des choses à Saint-Astier en Dordogne, puisque c'est là que sont formés, que sont éduqués, que sont préparés nos forces de l'ordre. Oui, voilà. Donc, vous allez avoir la preuve aujourd'hui même qu'il s'agissait bel et bien d'une lamentable, d'une malheureuse, d'une regrettable bavure qui ne se reproduira pas. Ce reportage, le reportage du jour, va vous rassurer. Alors, d'autres messages nombreux sur le répondeur de la base. J'y suis suite à l'émission de vendredi au miroir de ce qui se passe, continue de se passer d'ailleurs en Irak, en matière de sévices, comme on dit, comme on n'ose plus dire, mais bel et bien de torture, on est revenu sur des reportages de 98, des archives, disons, de la base où j'y suis, pour tout dire, sur la torture en Algérie. On avait deux témoignages d'anciens d'Algérie, l'un avouant carrément et directement, c'était en 98, avoir torturé. Il se trouve qu'il s'appelle Monsieur Dieudonné, sans rapport aucun avec le fameux comédien. Et puis un autre qui, au cours d'un long entretien qui avait duré très longtemps, a fini par par reconnaître. Et le dire un peu comme une libération, dire que ben voilà, oui voilà. Alors ça a donné lieu à des réactions nombreuses, très nombreuses sur le répondeur de là-bas. Si j'y suis, plus sûr à nouveau sur cette histoire, sur ce terrible secret de famille qu'on croyait avoir, être un petit peu une affaire un peu apaisée, un petit peu qui s'éloignait un petit peu de nous. Ben non, on va voir que c'est resté très très vif et que le lien n'est pas toujours fait avec avec ce que nous souhaitions, c'est-à-dire le lien avec avec l'Irak. Donc voilà, des témoignages en tout cas qui nous ont beaucoup touchés. Je rappelle le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37, et ensuite en route vers Saint-Astier.
Ça fait drôle d'entendre ces types témoigner notre Dieudonné là qui. Là, je suis passé par plusieurs phases, quoi. Je veux dire, je suis passé de la haine à la pitié, à l'aspect pathétique de cette personne, des gens toujours pareils, quoi. Je retrouve souvent ça dans beaucoup d'émissions, toujours des gens qui n'assument pas, en fait, qui n'assument pas leurs actes. C'est les autres qui m'ont dit, on me l'a dit de le faire, c'est un ordre, comme si l'homme n'était pas libre. Ouais, c'est vraiment dur. En plus, moi, ça me touche parce que je suis d'origine algérienne. Mon père, oui, il a vécu tout ça aussi. J'ai perdu deux oncles à cause de cette guerre. Donc, je pense à ça, quoi. Je me dis que peut-être il y a un de ces deux oncles que j'ai perdu, qui a été tué par ces gens-là, peut-être. Un autre, ça, je le sais, par les Américains. Voilà. Ah, c'est amusant d'entendre l'autre qui dit mais il n'y a pas que les Boches qui étaient des barbares. C'est au moins il y en a un des deux qui a reconnu ça, quoi. Que personne n'a le monopole de la barbarie.
Bonjour Merlis, c'est Alexandre. J'ai écouté ton émission d'aujourd'hui, bien que écoutant depuis quelques mois seulement, et elle m'a particulièrement touché. Étant donné que le Bernard dont vous parliez, c'est précisément un ami de mon père et même un camarade d'Algérie où ils avaient été envoyés tous les deux. Donc, bon, évidemment, nous n'en avons jamais parlé, mais ça m'a touché particulièrement et je pense que le dialogue sera nécessaire. Merci.
C'est dimanche, mais j'ai encore du mal à m'en remettre parce que je trouve que, franchement, c'est terrible de penser qu'il y a des hommes qui peuvent infliger pareil traitement à d'autres hommes. Et vraiment, j'en suis bouleversée, c'est sûr, mais plus j'y réfléchis, plus j'ai du mal à juger ces gens-là. Parce que c'est quand même des appelés qui ont été envoyés là-bas, dans une situation un peu hors du commun, qui dominait pas du tout. Il faut savoir qu'à l'époque, on parlait pas de guerre, on parlait des événements, on parlait de maintien de l'ordre. Et ils se sont trouvés plongés dans une situation abominable, alors qu'ils avaient 18 ans, 20 ans, qu'ils sortaient de chez eux, qu'ils commençaient éventuellement leur vie professionnelle. Et qu'ils n'étaient pas du tout maîtres ils savaient pas du tout ce qui allait arriver, quoi. Et du coup, quand je les entends parler de leur histoire, je me dis qu'ils vivent avec ça et que c'est pour eux terrible. Mais ceux à qui vraiment j'en veux, mais vraiment, c'est ceux qui ont été les commanditaires de cette affaire-là. Parce qu'il y en avait qui savaient, les politiques qui ont donné les pleins pouvoirs à l'armée et toute la hiérarchie militaire qui a donné les ordres en les faisant exécuter les bases œuvres par ces jeunes. Et là, je trouve que c'est terrifiant. Ça n'a pas de nom. Et quand j'ai entendu le même jour que ton émission, le matin, chez Stéphane Paoli, Monsieur Langsad dire que les militaires avaient la possibilité de désobéir et que le général de la Bollardière était l'honneur de l'armée française, mais c'est impensable de dire des choses pareilles maintenant, alors qu'à l'époque, il a été sanctionné et que c'est Ossarès qui a été promu. C'était qui l'honneur de l'armée française à l'époque? Mais cette récupération, mais c'est impensable, mais c'est à hurler. Et moi, cela, je leur en veux. Mais je leur en veux. Alors que ces petits jeunes là qui vivent avec ça comme une croix toute leur vie, jusqu'à leur mort, ben, c'est pas à eux que j'en veux le plus.
Daniel, je ne suis pas du tout d'accord avec cet intervenant qui vient de dire j'ai obéi, donc j'ai envoyé balader les gens qui étaient sur la piste avec mon véhicule. Ça se passait en Algérie, en Kabylie peut-être, où j'étais moi, comme institutrice. Tout ce jeune contingent qui est parti en Algérie. On n'est jamais obligé d'obéir à des ordres imbéciles, Daniel. Les Français devraient le savoir, mais ils étaient peu nombreux effectivement à refuser les ordres imbéciles en 1940. Ils sont toujours aussi peu nombreux. Alors moi, je voudrais te dire, Daniel, que moi, j'avais 18 ans, j'étais en Kabylie pour alphabétiser des petits Kabyles, et je vivais chez l'habitant, et je suis allée voir le commandant pour lui dire que j'avais honte d'être française. J'attendais mon premier bébé, j'avais un ventre comme une outre, et ça ne m'a pas gênée. Je suis allée lui dire mon sentiment, et si tout le monde avait agi de cette manière-là, au lieu de dire « je me cache parce que j'ai obéi », on n'est jamais obligé d'obéir. On peut aller dire et faire ce qu'on a à faire. C'est la moindre des choses lorsqu'on est un être pensant et humain. Voilà. Je ne peux plus supporter tous ces gens qui se cachent derrière leurs petits doigts pour dire j'ai fait des saloperies parce que on me l'a demandé. Ça n'existe pas, ça. Ou alors qu'est-ce que les Français sont quoi là?
Je suis en train d'écouter ton émission et on est vendredi. Bien sûr que c'est dégueulasse. Bien sûr qu'il n'y a pas de nom pour dénoncer la torture. Bien sûr que c'est sale ce qu'a fait aussi l'armée américaine au Vietnam, dans le village de My Lai, ou maintenant en Irak. Eh oui, c'est dégueulasse ce qu'a fait l'armée française. Mais maintenant, c'est plus un secret de polichinelle. On le sait. On le ressait. Tu devrais quand même lire le livre de Georges Marc Benamou, Un mensonge français, au cas où tu ne l'as pas fait. Parce que j'espère qu'un jour, malgré tout, dans ton émission, tu auras l'honnêteté intellectuelle de parler de Mélouza, de ce qui s'est passé à Mélouza en Algérie, de ce qui s'est passé le 5 juillet 1962 à Oran, et du massacre des Harkis, cet autre mensonge sans nom. La torture de l'armée française pendant la bataille d'Alger, c'est un mensonge sans nom. Là aussi, c'est un mensonge sans nom, le drame des Harkis. Oui, peut-être qu'un jour, tu finiras par ne plus opposer une vérité par rapport à l'autre, comme l'ont fait beaucoup de gens de ta génération, mais faire comme l'a fait cet écrivain que j'ai cité au début de mon intervention, simplement ne pas être hémiplégique au niveau de la mémoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis juste né en novembre 62 à Montpellier. Novembre 62. Mes parents étaient nés de l'autre côté. Ça, c'est une autre affaire. Et j'en ai pas honte. Hein? Aujourd'hui, j'ai deux enfants franco-marocains qui s'appellent Younes et Yasmine. Voilà.
À peine rentré dans la voiture, le chef m'a dit « Bon, les conneries de droit de juge de merde sont terminées. À partir de maintenant, tu vas voir ce qui est bon. T'as entendu, fille de pute ?» Et il m'a frappé à la tête. Ils ont rebandé les yeux. Ils ont commencé à m'insulter, à me menacer, à me donner des coups. À part le chauffeur, les trois autres m'ont constamment donné des coups. De suite, celui de ma droite a pris un appareil qu'il avait entre ses jambes et il m'a envoyé des décharges électriques sur le côté droit. En même temps, celui de ma gauche m'a mis une poche en plastique sur la tête. Je ne pouvais plus respirer et je me suis presque asphyxié. Pendant ce temps, le chef de devant me donnait des coups à la tête. Et en plus de tout cela, les deux hommes qui étaient entre moi me frottaient les seins. Tout cela, les électrodes, la pochette de plastique et les attouchements et les coups, ils me le faisaient en criant dessus et en m'insultant, sans arrêt, tout en même temps. J'ai perdu connaissance au moins deux ou trois fois et je me suis uriné dessus. Avant de perdre connaissance, j'ai déchiré la poche en plastique plusieurs fois avec mes dents, puis ils m'en ont mis d'autres. En voyant que je les déchirais, ils m'en ont mis trois d'un coup. Ça s'est passé en 2001 et ça a duré 5 jours. Irache Sorsaval a été torturé par la Guardia Civil parce que la France l'a expulsé en 1999 vers l'Espagne. Voilà ce qui se passe. C'est pas il y a 50 ans, c'est pas à 50 000 kilomètres, c'est de l'autre côté des Pyrénées. C'est une pratique systématique des forces espagnoles contre les dissidents basques. Ça se passe dans l'Union Européenne de nos jours. Ce soir, je suis triste après l'émission parce que j'ai l'impression que du Pays Basque et des dissidents basques et de ce qui se passe chez nous, tout le monde s'en fout. Au revoir.
Salut Mermé, je coupe là, je peux plus. Je suis en train de donner le sein à mon petit Maël de 6 mois. J'ai peur que ça fasse tourner mon lait là, le machin que t'es en train d'interviewer là. Bravo pour rester aussi zen, hein, parce que je sais pas comment tu fais. Il a des enfants, des petits-enfants, ce mec-là, il arrive à leur dire ça. Bah écoute, on a du boulot encore, hein, pour changer les choses. Eh ben, bravo, et puis à bientôt. Ciao.
Voilà, quelques-uns de vos messages. Donc, il y avait beaucoup de messages sur ce thème. Et c'est vrai que la mémoire est toujours à vif sur cette histoire, même si on voit quand même des signes, de peut-être pas d'apaisement, mais d'une certaine sérénité et d'accepter peut-être un peu mieux l'histoire et, comme le dit cet auditeur, aussi les souffrances des autres. Alors que fait la police pendant ce temps-là, hein? Que fait la police? C'est la question qu'on se pose. Bon, on l'a vu à l'œuvre là, à Cannes, voilà ce que fait la police, elle cogne. Il y a des gens qui ont oublié, hein, ce mot d'argot, cogne. Un cogne, quand j'étais môme, on disait un cogne, C'était un gendarme, c'était un flic, on appelait ça un cogne. Le mot a disparu, ben il a l'air de quand même de pouvoir être réemployé à nouveau. On voit l'augmentation des bavures policières et puis là cet exercice de force tout à fait condamnable évidemment, et qui a été quand même vous avez vu le préfet qui est venu faire des excuses. C'est tout à fait quand même un grand moment d'histoire. Donc je le disais en commençant, il s'agit là d'une regrettable bavure, et on va vous rassurer, françaises, français, d'en haut comme d'en bas, nos polices sont formées et sont très très bien formées. Ça se passe à Saint-Astier, c'est en Dordogne et c'est pas triste.
Bon, allez, je vous abrège, hein, parce que sinon c'est 80 fois. Et c'est à Valeroy-le-Bois, en Haute-Saône. Il est 6h du matin, c'est l'heure de l'Angélus, c'est l'heure de la prière. Eh ben voilà, ça vous fait une belle jambe. Ben moi, c'est tous les matins comme ça. Voilà, merci l'Angélus de Valeroy-le-Bois, il est 6h.
Olivier de Plaine de Cuc, c'est non loin de Marseille, et j'appelle Mermé parce qu'il vient de m'arriver une situation assez cocasse. Il me semblait que j'étais un citoyen et qu'on pouvait me demander mon avis d'opinion. Donc je viens d'être contacté par l'IFOP, Institut de Recherche que l'on nomme souvent. Et puis, à chaque question que la demoiselle me posait, fort gentiment d'ailleurs, je demandais quelques explications, et au bout de la quatrième question, elle m'a raccroché au nez. Alors je voudrais savoir ces tendances d'opinion, sur quoi sont-elles faites. Je trouve ça assez vulgaire quand même. Allez, bonne continuation, là-bas si j'y suis. Au revoir.
Salut tout le monde, c'est Philippe Leroy à Amiens. J'ouvre le journal aujourd'hui et qu'est-ce que je lis ? J'apprends que la caserne en bas de chez moi ne dispose pas de cantine. Alors, la caserne, je cite le courrier Picard, pour faire preuve de modernité, de compréhension des jeunes et d'adaptation à leur mode de vie, vient de passer un contrat, tadam, avec... McDonald's eux-mêmes. Donc pour leur journée d'appel et de prévention à la défense, je cite toujours, il y a une cinquantaine de jeunes qui tous les jours vont aller manger chez McDonald's. Et je cite encore le courrier Picard, c'est pour eux que, enfin à eux, la farandole de sandwich, frites, soda et autres gourmandises. Est-ce que c'est pas merveilleux ? Voilà, j'espère que vous avez beau temps et puis ben bon appétit si vous êtes à table. Ciao.
Salut Daniel, 14 mai, Assemblée Générale des actionnaires du groupe Total. Alors que le groupe Total fait d'insolents bénéfices à hauteur de 7,5 milliards d'euros, celui-ci veut se défaire de sa chimie afin de satisfaire toujours plus ses actionnaires. Aujourd'hui, nous, salariés de la chimie de Total, sommes venus pacifiquement, avec le soutien de deux députés, affirmer notre désaccord sur cette éternelle surenchère financière au détriment de nos emplois. Réponse de Monsieur Desmarais, des dizaines de cartes de CRS, 6 personnes agressées par des gardes mobiles à coups de matraque et de gaz lacrymo. Bonjour le dialogue social avec des milices publiques aux ordres des groupes privés. Et démarrer, l'emploi, ça passe avant la bourse.
Ouais.
Salut.
Alors, écoutez le renégat qui parle dans le poste. Le renégat, c'est Claude Villers. Il s'en va, il nous lâche, il fout le camp. Eh ben ça alors, eh ben ça Claude Villers, tu nous auras tout fait, mais ça... c'est pas la bonne chose. Le 25 juin, il s'en va, le Claude, le père Claude. Le Claude, il s'en va. Bon, allez, je plaisante. Mais il va nous manquer, comme si un Claude Villers pouvait prendre sa retraite. Allez, le Claude, on t'embrasse. Pas de panique, on t'aime bien quand même. Allez, le Claude, au revoir.
Tu connais Millau dans l'Aveyron, je sais que tu es venu, je t'ai vu au Café de la Perle, lors de l'affaire de José Bové. Mais là, c'est une autre chose qui est en train de se produire, c'est la mort d'une ligne de chemin de fer. Et elle n'est pas encore en coma dépassée, mais enfin, elle commence à être perfusée. Et de toutes parts, on est en train de l'attaquer, alors si tu pouvais faire passer notre message... y a une très grosse manifestation qui va être faite à Millau le 26 juin pour la défense de cette ligne, justement. Et puis, si tu viens nous voir pour en parler, à n'importe quand, y aura toujours une assiette de soupe pour toi. Merci, ciao.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil, le maintien de l'ordre.
Flight number 2, arriving from...
Vous êtes caméraman, en effet, vous êtes journaliste, vous êtes intermittent, et les sons que nous entendons vous disent quelque chose. Ça résonne un peu dans votre tête aujourd'hui. Vous êtes tranquillement allongé avec quelques points de suture, avec des bandages un petit peu partout, avec un œil ou deux au beurre noir. Il vous reste encore quelques dents, mais vous êtes un petit peu choqué et c'est bien pour nous, ça nous fait des auditeurs en plus pour nous écouter aujourd'hui. Alors, on va vous rassurer. On va vous rassurer, amis intermittents, amis journalistes, amis caméramans, on va vous rassurer, ceux qui vous ont quelque peu malmené sont des hommes comme vous et moi. Au bout de la matraque, il y a une main. Au bout de cette main, il y a un bras. Au bout de ce bras, il y a un être humain. Et cet être humain, oui, si, calmez-vous, c'est un être humain. Et on va vous en apporter la preuve, c'est que cet être humain, eh bien, il reçoit une formation. Ça peut paraître extraordinaire, mais c'est une formation. J'ai pas dit dressage, j'ai dit formation, et on va aller sur le lieu où se passe cette formation. Je l'ai promis, on y va. C'est à Saint-Astier, c'est en Dordogne, et c'est formidable. Alors voilà, ça y est, ça a commencé. On est où donc ? Non, on n'est pas au Quartier Latin il y a 34 ans maintenant. Non, on est dans une charmante cité de la France profonde. C'est en Dordogne. C'est un endroit qui s'appelle Astier. Saint-Astier, exactement. Et là, depuis des années et des années, eh bien, les gendarmes s'entraînent à lutter contre tout ce que je vous ai décrit à l'instant, c'est-à-dire contre ces citoyens qui accidentellement s'égarent et sont conduits à troubler l'ordre public. Eh bien, ces citoyens, il faut les ramener à l'ordre, il faut maintenir l'ordre. Et là, eh bien, s'entraînent des jeunes hommes, pas de femmes. Enfin, où Thierry Schaff n'a pas bien regardé, c'est pas facile, vous savez, sous l'uniforme, le casque et le masque à gaz, de voir s'il y a des femmes, mais visiblement, il n'en a pas vu. Et on va assister à l'entraînement de ces garçons. Alors maintenant, évidemment, c'est à l'échelle européenne, vous savez, l'Europe. Et on va tout savoir sur ceux qui, donc, depuis si longtemps, nous cognent dessus. et comment on les dresse, enfin, comment on les forme dans des stages. Alors, il faut savoir que dans ces stages, eh bien, gendarmes et voleurs, ça se tire presque au sort. Il y en a qui vont faire les manifestants, et puis d'autres qui vont faire ceux qui les cognent. Alors, c'est un endroit dégagé, comme ça, où il y a un décor, il y a une ville qui est reconstituée, qui s'appelle Sigaville.
je sais pas pourquoi, Sigaville, une ville factice avec façade, avec des rues, avec des noms de rues, dont la rue Monge. On verra le sens que ça peut avoir, du normal que 34 ans après, certains aient pu oublier le sens que peut avoir le fait de citer cette rue. C'est que ces stages ont été inaugurés quelques mois après les événements de mai 68. Donc là, c'est un jeu de rôle, en fait, qui va se dérouler sous nos yeux et sous nos oreilles, parce que ça cogne pas mal. Il y a 240 stagiaires, des jeunes gens pleins de santé, qui sont sous vos yeux, et, je l'ai bien dit, sous vos oreilles, briefés par le capitaine Belbé.
Dernière surprise partie pour les Verts. Vous avez de la chance, vous êtes acteur pour la synthèse de nuit. Attention, attention. Le thème de ce soir est excessivement simple, un melting pot de ce qu'on a vu depuis le début. Vous êtes des écolos étudiants chasseurs de l'agriculture. D'un côté, il y a les bons, de l'autre, les méchants. On va simplifier. L'exercice va se jouer de la place du Major Lecomte en direction de la place des Momelots, mission pour les forces de l'ordre, évacuée dans son intégralité, Sigaville. Pour vous, prise d'assaut des forces de l'ordre, dès qu'elles auront mis la première roue sur la place du Major Lecomte. D'emblée, nous serons casqués. Dès que les forces de l'ordre arriveront sur rue de Dordogne, des éléments très mobiles, virtuels, ce seront mes machinations, jetteront des cocktails Molotov sur leurs véhicules. Dès que les véhicules seront arrêtés, à l'assaut sur les forces de l'ordre avec jet de projectiles, harcèlement à distance. Vous êtes plutôt dans une configuration jeune des banlieues, vous restez à distance, il s'agit de harcèlement à base de petits groupes mobiles. Okay, en revanche, vous restez sur les axes, vous ne rentrez ni ne sortez par les façades. Vous en faites pas, vous aurez de quoi vous en donner à cœur joie. Prenez soin de vous, mais donnez aux forces de l'ordre l'occasion de montrer ce qu'elles savent faire. En avant.
Ah, vous voyez, c'est chouette, on est entre jeunes. Là, ce que vous avez entendu, c'est les plastrons, ce qu'on appelle les plastrons, c'est-à-dire ces stagiaires qui sont désignés pour faire les méchants, c'est-à-dire les verts, les chasseurs, les paysans, enfin tout ça, les étudiants. Alors, il y a les plastrons d'un côté, et de l'autre côté, eh bien, c'est le service d'ordre. C'est le service d'ordre. Alors, ces entraînements, là, on va assister à un entraînement de nuit, c'est la fin du stage, hein, c'est la synthèse, la fin du stage. Eh ben, on a avant, allons-y, allons-y.
Saint-Astier, c'est la configuration d'une situation insurrectionnelle auquel doit répondre les forces de l'ordre.
La France se trouve dans une situation quasi insurrectionnelle avec des mouvements sociaux qui font flamber les villes et les banlieues de toutes parts. L'objectif est d'entraîner les unités dans tout le spectre des missions qui peuvent leur être confiées. La gendarmerie, notamment la gendarmerie mobile, doit être capable d'intervenir sur tout le spectre de la crise, du service d'ordre jusqu'à des situations d'ouverture du feu où, notamment en opération extérieure, elle pourrait être relevée dans sa mission par une unité de l'armée de terre qui est une unité combattante, ce qui n'est pas le cas de la gendarmerie mobile.
Alors historiquement, quand est-ce que la dernière fois s'est présenté ce cas de figure-là?
Ce cas de figure-là se passe encore aujourd'hui au Kosovo. De septembre à janvier 2000, l'escadron de gendarmerie mobile qui a été engagé au Kosovo aux côtés de la force militaire s'est trouvé dans une situation comme celle-ci. Aujourd'hui encore, notamment dans nos dom-tom en Nouvelle-Calédonie, il a été fait usage d'armes contre la troupe. Le lieutenant-colonel Garrido a été grièvement blessé. En Guyane, ce sont des situations qui se produisent aussi assez fréquemment. Et en métropole, dans les banlieues, de façon assez régulière, la troupe se trouve engagée face à des manifestants très mobiles qui recherchent le contact et qui recherchent à générer des blessés parmi nos rangs. Après les mouvements de mai 68, il a été décidé d'instaurer un centre à partir d'une petite cellule créée à Saint-Astier parce que a été identifié le besoin à ce moment-là d'un centre unique d'entraînement et de création de la doctrine pour les unités de maintien de l'ordre. Mmh. Ça a été le centre de Saint-Astier, premier en Europe, qui reste le centre le plus important dans ce domaine-là.
Mon colonel.
On est prêt pour la manœuvre ?
On est prêt, mon colonel. Je leur ai donné comme consigne de pourrir intégralement la ville à base de bidons, de pneus, etc. Les forces de l'ordre seront attendues dès leur arrivée.
Ils auront du travail d'arrivée.
Oui.
On y va. Ça va être chaud, là.
Ce soir, oui.
Hein, c'est donc, le grand soir, là.
Dans tous les sens du terme.
Le grand soir, mais de nuit, ça fait beaucoup plus.
Et c'est ça, en fait. Ici, on prépare le grand soir, quoi.
Tout dépend ce que vous mettez dans le compte. Ce que pour vous contient le grand soir, mais tout à fait.
Non, mais le grand soir, c'est la révolution.
Ouais.
Pour eux, il faut bien voir que c'est le dernier exercice aussi.
Il faut ajouter à cela que la nuit revêt un caractère affectif qui fait que les exercices de maintien de l'ordre de nuit ont toujours une dimension supplémentaire par rapport à ceux de jour.
On en est où, les gars, là? On est dans le camion qui va vous mener au combat.
On attend les ordres. C'est le calme avant la tempête.
Pays 33 démarre, nous on démarre derrière.
Vous avez un look super moderne, hein, avec une petit micro comme ça, là, accroché. C'est les nouveaux flics, un peu Robocop, tout ça, non?
Robocop, pas tellement, non, parce que les seules protections que nous avons sont les jambières et le reste n'est pas protégé. Comme on peut le voir, là, il y a une colonne de véhicules qui est assez...
Il y a combien de cars, tout, là?
Alors, par escadron, vous avez 3 cars. Là, vous avez 3 escadrons.
Et vous savez ce que c'est comme manifestation, là?
Concrètement, on a un pays qui traverse une crise grave, où étudiants, ouvriers et paysans organisent des manifestations à la limite de la surrection.
Ouais, ouais.
Aucune région du territoire n'est épargnée. Les unités des 3 armées ont été consignées. Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre des plans généraux de protection. Papon. RPF, réquisition particulière au poids de la force. Okay. Donc ici, Souxi-Gaville. On a environ 1000 manifestants et on a eu le renseignement également qu'une centaine de jeunes extrémistes venant de Bordeaux, Périgueux, Angoulême tenteraient de faire dégénérer la manifestation. Là, je vous laisse parce que les manifestants sont là, il va falloir qu'on débarque.
D'accord. Ah, voilà, hop, alors les manifestants sont dehors. Alors là, on est sur un terre-plein où... Il y a un affrontement qui s'engage, il y a des policiers donc déguisés en manifestants, donc en civil, et de l'autre côté les gendarmes. Et au fond du terre-plein, une ville reconstituée, avec des façades de maisons factices, et des voitures brûlées, des...
Pour un tir de grenade au-delà de la barricade, préparez-vous.
Les forces de l'ordre sont arrivées et ont été immédiatement prises à partie par une bonne centaine de jeunes manifestants, très excités, très agressifs, avec cocktails Molotov, jets de projectiles, insultes, etc. Donc très rapidement, ils doivent être en mesure de débarquer, de tenir l'axe, de se protéger. Vous en faites pas, vous avez un casque.
Ouais, ouais, mais bon.
Les grenades lacrymogènes pleuvent d'emblée et la troupe, vous le voyez, très rapidement, s'est mise en place. Fort heureusement, nous sommes en fin de deuxième semaine.
Ah, c'est vrai que le spectacle est étonnant parce que la nuit là est bien tombée maintenant. Et on voit les gyrophares au fond de la rue, la rue reconstituée. Les lacrymogènes qui forment un brouillard, une fumée de plus en plus compacte. Et les projectiles. Ah, ça vaut le 14 juillet, hein?
Ah, ça vaut largement le 14 juillet, les larmes en plus. Les larmes en plus.
Vous avez pris des slogans des manifestations de 95 Tous ensemble.
Vous me parlez en même temps et dans la même
oreille,
hein. J'ai le directeur d'exercice qui me parle. Si bien, j'entends absolument pas ce que vous me dites. Oui, Delta Echo, ici mobile, reçu. Bien, deuxième phase, vous allez être évacué jusqu'à la rue Monge.
À rue Monge.
Rue Monge, le premier carrefour en descendant sur la gauche.
Alors, en pleine Dordogne, là, dans une ville reconstituée, il y a la rue Monge.
Oui, alors Monge, je crois, était un général ou un maréchal, enfin un général gendarmerie.
Ah oui, c'était pas que ça, la rue Monge, c'est quand même un symbole.
Oui, écoutez, vous me la prenez parce que...
Non, vous voyez pas
de quoi je parle. Non.
La rue Monge, c'est le quartier latin.
Je sais pas trop, les noms de rue sont plus...
En 68, il s'est passé des drôles de choses dans Lorimont.
Ouais, c'est possible. Les noms de rue ici sont plus des clins d'œil. On a la place des Molos, la rue du 20 mai 1903 qui est notre décret organique.
Ça pue, hein.
Il y a des obstacles au milieu de la rue.
Vous avez une torche?
Oui, c'est une torche, oui. Avec une halogène pour repérer et aveugler les éventuels manifestants, éviter les projectiles.
Ah, ça projette vachement loin la lumière, ouais, hein.
Plus on les aveugle, mieux c'est pour nous.
Ouais.
Allez, on y va.
Attendez, je vous suis.
Attention au milieu. Regardez où il passe.
C'est vrai que de nuit, c'est très impressionnant, hein. De nuit, c'est très impressionnant parce qu'on ne voit pas très bien. C'est l'insurrection totale. Et en plus, là, vous voyez, il y a des blessés qui commencent à tomber et on peut pas tout maîtriser. Hein? Vous êtes où, vous?
Je suis là. Mais je récupère mes blessés, sinon j'ai plus personne. Hein.
Je sais bien. Essayez, ouais. Vous en êtes où, là? Bon, on vient d'être relevé.
J'ai eu deux brûlés, excusez-moi. J'ai eu deux brûlés, c'est brûlés réels. Ça va, c'est bon, là-bas en haut, quand ils ont balancé les trucs. Hein. Alors vous leur dites qu'ils arrêtent les conneries, sinon ça va mal se passer. Hein.
Major, quel est l'intérêt des blessés là?
En faisant péter des trucs comme ça, il y en a un, je sais pas, qui a balancé un truc complet dessus, c'est remonté dans les gars, ils ont été brûlés ici aux jambes. Hein.
C'est vrai que la rue est barrée de feu là, ouais.
Nous avons pris la place qui était en haut, nous avons progressé jusqu'à cette hauteur, jusqu'à la rue Monge. Sous le nombre des assaillants et des cocktails Molotov, nous avons eu 4 blessés graves qui ont été, l'escadron a été relevé pour se réarticuler et se réorganiser par une unité qui venait de derrière. Bon, je vous laisse.
Mission. Oui. Mission. Dès que le SGO a reçu l'ordre de dégager 20 1903, notre mission, c'est sûreté latérale face CPGM, CIG.
Bien reçu. Pour tous, nouvelle mission. Bravo, CPGM, India, Alpha, Esplanade de Lille.
Voilà, faut dire qu'ils ont tous, dans le prolongement du casque, un petit micro. Ils se contactent comme ça par radio.
Tous, faites l'aperçu. Ouvrez la bouche, il y a une OF qui va péter. Ouvrez la bouche. Là, c'est bon. Ça, c'est une grenade offensive. C'est quand on a une réquisition complémentaire spéciale qui fait usage de la force. C'est une arme ultime.
Et je vois que tout le monde se met à courir maintenant, là.
Là, on attaque la charge pour reprendre le terrain sur les manifestants.
La part psychologique est un des fondements de la culture du maintien de l'ordre. Pourquoi dans les années 20, 1925 exactement, il a été décidé de créer des pelotons de gardes mobiles? C'est parce qu'on avait constaté que la troupe, c'est-à-dire les militaires de l'armée de terre, lorsqu'ils étaient engagés dans ce type d'opération, opération qui n'était pas culturellement leur métier, développaient une agressivité qui faisait que leur action n'était pas strictement proportionnée à la menace, et en tout cas n'était pas en phase avec les conceptions d'une gestion démocratique des mouvements de foule. Il a été décidé d'instaurer ces troupes de façon à ce que donc les gendarmes mobiles puis les CRS soient une réponse proportionnée aux mouvements de foule, au maintien de l'ordre, qui se situe au point de convergence entre la liberté d'expression du citoyen dans la rue et le devoir qu'a l'État de garantir la sécurité et la tranquillité publique.
Alors là, c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on ne voit absolument rien. On est dans la nuit noire avec les fumées de lacrymo et on est obligé de mettre le masque à gaz qui diminue la vision. Et on comprend l'angoisse quand même des flics. On peut comprendre l'anxiété totale quand même dans ces cas-là parce qu'on maîtrise plus grand-chose là. Hein. Ça reste quelque chose d'oppressant, quoi. Avec ces types qu'on voit à peine à travers les fumées, et avec leurs casques bardés, là, et comme des Robocop, on a l'impression d'être dans un mauvais film, dans un mauvais cauchemar.
Ah oui. Thierry Scharf, sous son masque à gaz, il commence à comprendre ce que c'est de l'intérieur, de vivre cette situation des gendarmes qui doivent affronter ces méchants manifestants qui ne pensent qu'à porter atteinte à l'ordre public. Alors, si vous prenez l'émission en route, pas de panique réelle, on est au Centre National d'Entraînement des Forces de Gendarmerie de Saint-Astier, c'est en charmante cité nichée dans son écrin de verdure quelque part en Dordogne, qui a dit qu'il se passait rien en France, et ben un certain soir ça chauffe, parce que là c'est un soir, c'est la fin d'un stage de formation de ces hommes. Vous avez vu que ceux qui font les manifestants, et ben ça montre quand même que les policiers, enfin les gendarmes en l'occurrence, sont entraînés à se déguiser en manifestants.
Faut pas oublier ça, hein. Amis manifestants, amis de Gênes et d'ailleurs, il y a des policiers qui s'entraînent à faire les manifestants. Pas d'autres commentaires. On est toujours avec notre ami Thierry Schaff qui commence à s'impatienter avec son masque à gaz, parce qu'il y a des vrais gaz. Il y a des vrais gaz, ceux qu'explique un gradé qui dirige ses entraînements. Il explique que si on augmente la violence de la simulation, eh bien, on augmente son réalisme. Mais vous avez vu, il y a quand même des limites, parce qu'il y a un gars qui est arrivé en disant qu'il y avait deux brûlés réels. Mais, ajoute cet officier, si on a trop de sécurité, eh bien, on perd en réalisme.
Le maintien de l'ordre, ça ne s'improvise pas, c'est une véritable culture. Qu'a-t-on observé à Göteborg, à Gênes, etc. Des hooligans, des manifestants anti-mondialisation ont transporté dans ces pays-là, qui n'ont pas une culture de la manifestation, des modes d'action auxquels les policiers de ces pays n'étaient pas...
L'Italie, il y a une tradition. Hein.
Oui, le problème italien est un petit peu différent. Il y a eu des lacunes, visiblement, d'ordre tactique. Aujourd'hui, le manifestant tend à devenir un manifestant mondial, avec une tenue, avec des casques, protections, gants, masques à gaz, boucliers, qui deviennent eux-mêmes des professionnels du maintien de l'ordre, comme le sont les forces...
Il y a de la concurrence, là.
Tout à fait.
Un avenir
ah oui, oui. Encore garanti.
C'est quand la dernière fois où on a utilisé cette configuration-là, donc des blindés? Quand est-ce que les blindés sont descendus dans le...
La dernière fois qu'on a utilisé les blindés à Métropole, c'était pour mai 68, où ils étaient mis en réserve, mais ils n'ont pas été employés directement. Mais autrement, les blindés sont sortis en outre-mer systématiquement quand on pense qu'il va y avoir un maintien de l'ordre lourd.
Le réservoir qui explose, là.
À quel réservoir?
Voilà,
la voiture, là.
La voiture qui a été sur la barricade enflammée.
Pas mal comme spectacle, hein.
C'est impressionnant d'ici.
Là, on est dans la tour, là.
Ouais. On reçoit pas de lacrymo et on voit
c'est la tour des chefs, ici. On est bien protégé, là.
Et des spectateurs. Et ça permet de tirer beaucoup d'enseignements. Hein. Là, vous avez vu tout à l'heure la prise en compte des différentes rues, ou bien le manque de dynamisme qui peut y avoir, ou... Donc on arrive à tirer beaucoup d'enseignements qui permettent d'éviter des blessés, d'éviter des contacts avec les manifestants. Et moins il y a de contacts, moins il y a de blessés.
Ça marche bien ici, hein. Il y a des étrangers qui viennent. Les Français sont assez bons dans l'exercice, là.
Oui, il y a, je dirais, deux grandes techniques. Il y a celle, la technique britannique et la technique française pour le maintien de l'ordre. Bon, la technique britannique, c'est celle qui est employée avec l'IRA, donc c'est des conditions très particulières, qui a été enseignée entre autres aux Israéliens. Bon, et chacun a des petites habitudes, et beaucoup d'étrangers travaillent un petit peu de la même manière. Après, il y a des particularités dans chaque pays. En Inde, ils travaillent beaucoup avec le bâton long.
Le bâton long, c'est-à-dire?
C'est un bâton qui mesure 2,50 m avec lequel ils repoussent les manifestants.
Donc, vous me disiez, d'un côté les Anglais et de l'autre les Français?
Oui, essentiellement. C'est les Britanniques et les Français. C'est surtout déjà la menace. Les Anglais ont des menaces essentiellement avec armes à feu. C'est également eux, je vous dis, qui ont formé les Israéliens. Ouais, il suffit de regarder ce qui se passe sur le terrain pour voir ce qu'il en est. C'est je dirais, plus radical.
Voilà. Alors que nous, on est plus soft, plus doux.
C'est le sentiment que j'ai.
Alors, vous, ici, à Saint-Estier, vous avez formé qui?
Alors là, de plus en plus, il y a une collaboration au niveau des pays européens et d'Europe du Sud. La France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal.
Les Latins, alors. Les Latins qui se mettent ensemble. Ouais.
C'est drôle, mais on retrouve des manières de faire, de réagir. Bon, l'objectif de la FIEP, la France, Italie, Espagne, Portugal, c'est que les unités puissent travailler ensemble.
Voilà, il y a la charge qui commence, là. Vous êtes qui, monsieur?
Je suis le médecin général Moutet, directeur en région.
Ah bon, d'accord. Et vous, voilà. Monsieur?
Je suis le médecin principal, Robin, médecin chef du centre.
Ah bon? Et vous?
Moi, médecin colonel Morégier, directeur.
Ah, c'est que des médecins, alors?
Il y a que des médecins ici, oui.
Ah oui, oui. Alors là, on est planqué, là, un petit peu, là. On est sur les balcons de la rue, là.
Oui.
Hein, on regarde le spectacle.
Tout à fait.
C'est quand même très, très impressionnant.
Ouais, ouais.
Et ce qui m'impressionne le plus, en fait, c'est le binômage permanent des équipes. On ne se quitte jamais. C'est vraiment très, très impressionnant. C'est l'efficacité et la solidarité. Avec l'ambiance sonore, et vraiment, c'est très réaliste. Et ça sent la poudre dans tous les sens du terme. Comme le disait le colonel Durieux, le but, c'est de pas se faire des blessés chez le manifestant, c'est de le ramener à la raison. Et je crois que c'est efficace. Mais il faut quand même aussi l'impressionner. Et ce mélange de force et de force retenue est très impressionnant. C'est très, très intéressant. Et en plus, l'énergie avec laquelle tous les participants se donnent, aussi bien le plastron que les forces de l'ordre. Je trouve ça plutôt rassurant, vu du citoyen du bon côté de la barrière.
Vous sentez l'ambiance? Les lumières, les feux follets, le brouillard? Ce soir est un grand soir. Mais ce sont les forces de l'ordre qui vont gagner.
Et le c'est toujours le film, il se finit toujours pareil ici.
Oui, c'est psychologique, il faut que ça finisse bien. Ouais. C'est de la pédagogie positive, ouais. Par la réussite.
Ah, il y a des ordres qui arrivent.
Major ! Major ! Excusez-moi, un instant.
Quand j'ai mon
chef. Non, je comprends.
Tu m'appelles ?
Hypercute. Ça veut dire quoi ça ?
Les véhicules blindés vont percuter la barricade.
Ah, alors ça veut dire que là on est en bas de l'avenue du village, de la ville, et il y a une barricade constituée de bagnoles brûlées. Et là c'est les blindés qui arrivent là, c'est ça.
Ce sont les blindés qui arrivent, qui vont pousser la barricade. Là il ne s'agit pas véritablement d'une percussion, mais d'une poussée simplement, de façon à dégager l'axe. Vous pouvez monter dans le VBRG pour la percussion ?
On peut toujours, ouais, pourquoi pas.
Une fois que les VBRG seront rétablis derrière les gendarmes mobiles, je vous ferai monter dans le VBRG qui ira percuter.
D'accord.
C'est une expérience.
Selon vous, là, le danger aujourd'hui vient d'où ?
Les banlieues sont une zone où les forces mobiles seront amenées à intervenir, c'est certain. Après les banlieues, on a les grandes manifestations, enfin rassemblement des chefs d'État, sommet de chefs d'État. Mais les banlieues sont une zone très sensible à tenir, très vaste. Percée d'artères difficiles à tenir, avec un adversaire qui est chez lui, une troisième dimension qui est omniprésente, et des groupes très mobiles qui viennent pour la casse.
Pour vous, la guérilla urbaine de demain, c'est les banlieues?
Oui, sans aucun doute. Los Angeles 92 est un exemple pas si loin qui pourrait très bien se reproduire en France. Le problème viendrait de l'embrasement généralisé des banlieues, où là, Dieu sait si nous disposerions de troupes de maintien de l'ordre suffisantes. Mobile.
Attendez. Ah, il y a un ordre qui arrive.
Mobile. Oui, affirmatif. Je vous propose d'embarquer dans le VBRG. C'est ce que me dit le...
Ok, d'accord. Donc on va aller faire un petit tour de blindé.
Je vais essayer de trouver le commandant arrive.
Voilà. Risque d'embrasement général des banlieues. Oui, c'est un risque. Vous ne pensez pas que c'est un risque réel? Vous, eh bien, vous vous trompez beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces gendarmes qui s'entraînent dans ce centre national d'entraînement des forces de gendarmerie à Saint-Astier, en Dordogne. C'est une hypothèse. Et en tous les cas, il faut, face à cette hypothèse possible, eh bien, un scénario d'entraînement. Et c'est selon ce scénario que les choses sont en train de se dérouler. Alors, laissons vous entendez, ne croyez pas qu'il y a des milliers de manifestants, il y a 250 personnes en tout, les plastrons d'un côté, c'est-à-dire les méchants, ces gendarmes qui jouent à être les manifestants, et puis de l'autre côté ceux des forces de l'ordre. Mais les sons sont enregistrés, il y a des haut-parleurs tout le long de cette ville factice, c'est tout ça est réglé, et puis il y a une pression, et on est au milieu de tout ça. Et au milieu de tout ça, il y a un véhicule blindé. Et à l'intérieur du véhicule blindé, il y a qui donc ? Eh bien, là-bas, si j'y suis, l'envoyé spécial de là-bas, si j'y suis, avec son casque et son masque à gaz, Thierry Char.
On dirait des espèces de grands fauves avec deux yeux jaunes. Ah, voilà, le blindé est arrivé. Toque à la porte.
J'attends, donc ils ouvrent le véhicule pour faire embarquer les visiteurs. Ok, vous allez pouvoir embarquer, vous verrez de l'intérieur la percussion contre une barricade double enflammée.
Ok, on va rentrer, hop, porte s'ouvre. Il fait tout noir là-dedans. Bonsoir. Il y a combien de personnes ici là ?
Est-ce qu'il est bien étanche ?
Membre d'équipage, 3 personnes.
Ouais.
Actuellement en stage.
Ah puis alors il y a quelqu'un au centre là qui est sur une tourelle, c'est ça hein ?
Oh là ! Ça va ?
Ah, je m'attendais pas à ce qu'il parte aussi. Ah oui, il sert le gars là qui est dans la tourelle.
Je fais le tireur.
Ah, il est censé tirer là.
Oui. Ils peuvent mettre une 1,50.
Ah ouais.
Puissance de feu extraordinaire.
Et donc dans le tourello également, on peut tirer des. Il y a un lance-grenade qui permet de tirer donc des grenades lacrymogènes.
Ah oui, c'est formidable ça.
Comme vous allez pouvoir le constater vous-même, nous allons traverser, percuter une barricade enflammée, double barricade enflammée. Ouais. Et donc heureusement l'habitacle est complètement étanche. Hein.
Ah, attention, on démarre. On s'approche à ce qu'il peut dans le blindé là. Je suis à l'arrière du blindé là, mais c'est complètement rougeoyant derrière le pare-brise. On voit pas du tout ce qui se passe, il n'y a que des flammes. Et on fonce dans les flammes. Voilà. Oh là. Oh là, ça cahute. Le gars avec la tourelle fait un demi-tour sur lui-même, pivote sur lui-même. Il y a des flammes derrière les vitres là. Ça flambe un peu sur la carrosserie là, non ?
Oui, absolument. Des cocktails Molotov ont été lancés sur l'engin. Voilà, nous on percute la barricade, on ouvre une brèche pour permettre le passage de la troupe, qui reprend ensuite la situation en main.
Vous imaginez que ça puisse arriver un jour ça, situation comme ça, non ?
Bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. À Rennes en 94, pour la manifestation des marins pêcheurs. On n'avait pas de VBRG parce qu'on était en plus en centre-ville. C'était un centre-ville historique assez étroit. Mais on a manœuvré à plusieurs forces, hein, à pied. Et on avait une situation quasi insurrectionnelle qui était comparable à ce qu'on vit ce soir.
Ouais. Ouais. C'est vrai que les marins pêcheurs, des fois, c'est pas caressant. Hein.
Ce sont des gens assez violents quand ils s'y mettent. Et qui, en plus, étaient équipés de fusées d'amarrage. Donc, qui sont des fusées, des projectiles qui sont assimilables à des armes de guerre. Il y a eu 20 blessés.
Ah oui, quand même, hein. De votre côté.
Côté gendarmerie, c'est moi-même qui commandais l'escadron à l'époque, l'escadron de Chicago. Oui. Et j'ai eu 20 blessés dans mes rangs, dont un très grave. Bon, c'était une violence complètement démesurée, avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire beaucoup de blessés, le Parlement de Bretagne brûlé, la ville de Rennes saccagée. De toute façon, toutes les catégories socio-professionnelles sont à même de manifester un jour ou l'autre, ou même sans profession. Ça peut être les chômeurs, ça peut être les sans-papiers, ça peut être... Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de catégories aujourd'hui qui sont à même de manifester et de causer des troubles sérieux à leur public.
Alors, depuis les grosses manifestations antimondialistes, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a un après-Gênes, un après-Göteborg ?
Non, pour nous, ça ne change rien. La tactique des manifestants, telle qu'on l'a connue dans ces grands mouvements antimondialistes, pour nous, n'a pas beaucoup évolué. On a toujours les mêmes groupes en face de nous, avec à peu près les mêmes modes d'opératoire. Ce qu'il y a, c'est que nous, on essaie de faire évoluer également notre tactique. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment, mais nous-mêmes, nous faisons évoluer nos modes opératoires.
Comment ?
C'est pas à moi de vous le dire ce soir. Je ne peux pas vous en parler. Pas secret défense, mais disons que il vaut mieux ne pas tout dévoiler à l'adversaire si on veut garder une capacité de réaction et de surprise.
Dans le cadre du fonctionnement normal des institutions, le rétablissement de l'ordre est une mission des CRS et au-delà, dans un stade dépassé de la crise, des gendarmes mobiles. L'armée, et il est prévu que l'armée puisse intervenir...
Vous êtes le dernier rempart avant l'armée, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait. Nous sommes le dernier rempart. Maintenant, l'armée n'interviendrait qu'en cas très critique d'état de siège, en cas d'atteinte profonde au fonctionnement normal.
Parce que même en 68, l'armée n'est pas intervenue, d'après...
Aujourd'hui, les forces mobiles, et notamment les gendarmes mobiles, constituent en métropole le dernier rempart de l'État. Le stade supérieur serait la guerre civile. Et dans ce cas-là, effectivement, les forces de troisième catégorie, militaires, interviendraient aux côtés de la gendarmerie.
Donc si on vous voit débarquer dans les rues, ça sent le roussi quand même.
Non, nous sommes là pour protéger les citoyens et garantir la sécurité publique.
Bon, tout va bien alors.
Tout va bien, nous sommes à votre service. Nous sommes avant tout, et il faut insister auprès des gendarmes, nous sommes un service public au service du public. Et le citoyen momentanément égaré est invité par ce service public à retrouver le droit chemin.
Voilà, citoyen momentanément égaré, merci à tous. C'était un reportage de Thierry Scharf. Avec les gendarmes mobiles du centre de Saint-Astier. Plus d'informations à votre disposition sur le site de la base où j'y suis en allant sur franceinter.com. Et puis il y a toujours, je vous le rappelle, hein, le site sur lequel il faut surtout jamais aller, parce que c'est un site pirate et c'est mal, et parce que vous risqueriez de retrouver toutes les émissions de la base où j'y suis depuis 2001. C'est lbsjs, la base où j'y suis, .free.fr, lbsjs.free. www.gendarmerie.fr, l'endroit où il ne faut surtout pas aller. Je vous le dis au cas où vos enfants tomberaient accidentellement sur ce site. Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari, Koyen Guyenne, Christophe Imbert et Pascal E. Pascal Yellow, c'est l'équipe de la Bastille, j'y suis. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Bon, c'était génial.